Bonjour mes frères et sœurs. Ce soir, je voudrais vous apporter quelques révélations de la part du Seigneur, des choses. Bon, je n'ai pas la science infuse, évidemment, mais il y a des choses que le Seigneur me révèle de temps en temps et qui sont en rapport avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Et je voudrais vous partager ces choses aujourd'hui afin que vous les sachiez, parce que, en fait, peu de personnes savent les choses que je vais vous dire ce soir. Alors, prions afin que le Seigneur Jésus nous bénisse et prépare nos cœurs afin que nous puissions bien comprendre avec une intelligence renouvelée ce que le Saint-Esprit veut dire. Je te remercie, mon Dieu, de bénir mes frères et sœurs qui viennent écouter ce message aujourd'hui sur Révélation Bible. Je te demande, Seigneur Jésus, de les inspirer par ton esprit, qu'ils soient attentifs et qu'ils puissent bien comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église en ce moment, dans ces temps difficiles, dans ces temps tourmentés, où il y a tant de fausses choses qui sont apportées. Seigneur Jésus, je te prie que les choses deviennent claires dans leur cœur, afin qu'ils puissent se comporter de la manière que tu attends de chacun de nous. Merci Jésus. Amen. Donc je voudrais commencer par vous dire que Dieu est esprit et que nous sommes nous aussi des esprits issus de lui, et cela dès avant la fondation du monde. Nous avons été créés, nous, en tant qu'esprit avant la fondation du monde, et nous nous tenions donc face à Dieu, et nos esprits ont précédé donc la création du monde, et nous étions là quand Dieu a créé le monde, et en fait, nous battions des mains et nous nous réjouissions de voir comment Dieu faisait. Par exemple, rappelez-vous, dans Job 38,7, il est dit, Dieu s'adresse à l'âme de Jacob, de Job, et lui dit, « Où étais-tu quand je créais le monde et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Mais Job ne s'en souvenait pas. L'âme de Job ne le savait pas, parce que l'âme de Job était une créature récente et elle n'avait pas appris les choses. Par contre, si Job avait été spirituel, il aurait répondu à Dieu, « J'étais là quand tu créas le monde, j'étais parmi les fils de Dieu, parmi tes fils qui poussaient des cris de joie. » Mais l'esprit de Job ne s'en souvenait pas. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà enseigné, parce qu'un esprit qui s'incarne, c'est-à-dire qui vient dans la chair, qui vient habiter dans un corps de chair, eh bien, aussitôt, il oublie son passé éternel. Et nous sommes dans le même cas. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de passé éternel, ça veut simplement dire que Dieu nous en a fait perdre la mémoire. Alors avant que le monde n'existe, nous étions des esprits, des lumières, face à face avec Dieu. Pourquoi je dis des lumières ? Parce que la Bible nous dit que Jésus est lumière, et nous étions aussi des lumières, nous étions des fils et des filles de Dieu, face à Dieu. Et en fait, le premier qui a été créé, quand je dis créer, il faut qu'on faire attention, c'est Jésus. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1,15 qu'il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que Dieu était hors temps, hors espace, et il n'avait jamais parlé, jamais bougé, mais un jour il parla. Et ça a été son premier geste de création, premier geste de créateur. Il a parlé, et la parole est sortie de Dieu, et s'est tenue face à Dieu. Et c'est de là qu'on peut dire, comme Jean chapitre 1, verset 1, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était Dieu, mais elle était avec, c'est-à-dire en face. Jésus est Dieu, Jésus est avec Dieu. Hein, Jean chapitre 1, verset 1. Et c'est ce vis-à-vis de Dieu, Dieu vis-à-vis de Dieu, Dieu avec Dieu, qui a tout créé. Un peu plus loin, dans Jean, il nous a dit qu'il est lumière. Maintenant, d'autres termes, on sait qu'il est énergie, il est puissance. C'est donc Dieu face à Dieu, Jésus, qui créa les esprits que nous sommes. Parce que, selon Jean 1,3, rien n'a été fait sans lui. Dans Colossiens, on retrouve ça aussi, Colossiens 1. Or, quand Dieu parla, cela a créé ce qu'on appelle, dans le monde scientifique même, le Big Bang. Et les esprits que nous sommes étions alors des esprits d'un niveau inimaginable de perception, et nous nous trouvions en face de Dieu, ce qui signifie que nous nous savions vus et nous nous voyions vus de Dieu. Ce regard permanent qui s'exerçait sur nous a été difficile à supporter et certains esprits ont voulu déjà échapper au regard de Dieu. Ces esprits ont voulu fuir le regard de Dieu déjà là, exactement comme plus tard Adam et Ève ont voulu fuir le regard de Dieu et se sont cachés. Et Adam et Ève s'imaginaient qu'ils ne seraient pas vus par Dieu parce qu'ils étaient cachés. En fait, ça, c'est vraiment une dégringolade du plan spirituel, une chute. Le fait de fuir la face de Dieu pour se cacher, pour ne pas être vu, pour croire qu'on n'est pas vu. Parce que pensez-y, avant la faute, Adam et Ève voyaient que Dieu les voyait. Et après la faute, ils ne voyaient plus que Dieu les voyait. Ça n'empêche pas que Dieu les voyait quand même. Dieu les voit, mais eux, ils ne voient plus que Dieu les voit. Et comme je vous l'ai déjà enseigné beaucoup de fois, cela, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, c'était juste la répétition dans la matière, la répétition dans la création de ce qui était déjà arrivé, ce qui s'était réellement passé avant la fondation du monde. En fait, tout s'est déjà passé avant la fondation du monde. Jean nous dit même que le sacrifice de Jésus a été fait avant la fondation du monde. Vous trouvez ça dans Apocalypse 13, 8. Donc, la chute de Adam et Ève, la chute des esprits que nous sommes, s'est déjà produite avant la fondation du monde. Et cette chute s'est produite dans notre dimension, ensuite, dans cette création matérielle, elle s'est matérialisée. En fait, tous les esprits ont été créés pour savoir qu'ils sont vus, pour voir qu'ils sont vus. Alors, après avoir chuté, avant la création du monde, ces esprits n'ont pas disparu. Ces esprits sont en grande partie venus sur terre, habiter dans des corps de chair. Et ce sont les esprits des êtres pré-adamiques, des êtres qui vivaient avant Adam et Ève, c'est-à-dire des esprits d'ordre inférieur, des esprits qui avaient chuté, qui étaient tombés, qui avaient fui la lumière, fui la face de Dieu. Et Dieu les a mis sur cette terre, et ces esprits d'ordre inférieur sont ce qu'on appelle les animaux. Et parmi eux, il y avait le serpent ancien. C'était une sorte d'être qui marchait debout et qui parlait, il n'existe plus. La licorne n'existe plus non plus. Enfin bon, voilà, c'est toutes sortes d'animaux. Il y avait toutes sortes d'êtres là qui étaient des esprits qui avaient fui avant la création du monde, qui avaient fui la face de Dieu. Alors ils ont été incarnés, mis dans la chair, et puis Dieu a créé Adam et il l'a placé dans un jardin à part tous ces êtres-là. Il avait créé ce jardin pour y mettre Adam et Ève. Et Adam était un des esprits qui se tenait face à l'Éternel, qui n'avait pas fui, qui n'a pas chuté comme les autres, qui était un esprit digne et qui aimait être en face de Dieu, qui aimait être vu de Dieu. Et nous savons par révélation que l'esprit qui est venu habiter dans le corps humain appelé Adam, c'était l'esprit de l'archange Michel. C'est pourquoi il lui revient l'honneur à la fin de massacrer le dragon. On trouve ça dans l'Apocalypse. Alors, que s'est-il passé? La chute des esprits inférieurs a eu lieu avant la création du monde. Les esprits inférieurs sont venus habiter des corps d'animaux parce qu'ils n'ont pas supporté le regard de Dieu sur eux. Ils sont venus ici-bas. Ils ont chuté ici-bas et maintenant, ils n'ont plus conscience du regard de Dieu sur eux et ils ne se savent pas vus par Dieu. Maintenant, tous les esprits qui ont fui la face de Dieu avant la création du monde ne viennent pas s'incarner dans des animaux. Il y en a qui ne s'incarnent pas, qui ne s'incarneront jamais et qui restent des esprits inférieurs. Ce sont les esprits qui font partie de ces autorités dont Paul nous parle, de ces dominations, de ces puissances mauvaises qui se trouvent dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ce sont des esprits qui avaient été créés, qui n'ont pas supporté, qui ne voulaient plus le regard de Dieu sur eux avant la fondation du monde. Alors il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux de qualité d'esprit qui ont fui. Certains sont pas méchants. Et c'est pour cela qu'on voit des esprits inférieurs qui sont dans des animaux qui ne sont pas féroces, qui sont des animaux domestiques, des animaux de compagnie, des animaux vraiment magnifiques, gentils, charmants. Mais d'autres sont des animaux féroces, des animaux sauvages. Et parmi les esprits qui ont fui et qui sont restés dans les lieux célestes, qui ne se sont jamais incarnés, eh bien tous ne sont pas méchants, cruels. Mais certains sont juste taquins, futiles, farceurs, ils sèment la pagaille, mais ils ne sont pas forcément féroces, méchants. Il y a des degrés, n'est-ce pas, dans les esprits inférieurs. Ils ne sont pas tous pareils. Et donc, Dieu créa les cieux et la terre, et plusieurs esprits nobles, ceux qui n'avaient pas fui, ont demandé à venir sur terre pour faire réparation. Et nous sommes venus pour une raison. Pour faire réparation, pour louer Dieu, pour être une louange à Dieu. Le plan de Dieu était que Adam et Ève chutent, que l'humanité entière se trouve dans cette chute, c'est-à-dire dans la fuite, loin du regard de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a permis l'œuvre de tentation qui est venue de la part d'un esprit inférieur, le serpent ancien, et il a permis cela, et que la race humaine qui était né de Dieu, Adam était fils de Dieu, Ève aussi, que cette race humaine soit souillée par la race inférieure, par une race animale. Cette souillure, elle enferme l'humanité entière dans sa chute, dans sa fuite maintenant, en Adam et Ève. C'est pourquoi, après les mélanges des races, entre la postérité du serpent, c'est-à-dire Caïn, qui a une postérité lui aussi, hein, la postérité du serpent et la postérité de la femme, il y a deux postérités, il y a deux sortes d'humains. Eh bien, vous avez la postérité d'Adam avec Seth, eh bien, vous trouvez ces généalogies dans la Genèse, elles sont bien distinctes, et ensuite on ne trouve plus jamais Caïn dans aucune généalogie, c'est une histoire à part, c'est la semence du serpent, la semence de cet être inférieur qui a eu une relation avec Ève. L'humanité entière s'est trouvée dans le règne inférieur, dans un mélange, dans le règne animal. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle du fait que quand on n'est pas converti, dans 1 Corinthiens 2, 14, eh bien on fait partie de la race des hommes animaux. Et une autre chose est arrivée, des esprits qui n'avaient pas fui avant la création du monde et qui étaient restés face à Dieu, ensuite, après la création, ils ont chuté à cause des femmes qu'ils ont trouvées belles. Et ils ont eu des relations avec ces femmes. Et toute la race humaine est devenue encore plus souillée. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 6. Mais peu de gens savent ça. Peu de gens croient ça. Mais c'est extrêmement important. Cela explique beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que l'humanité tout entière est maintenant enfermée dans le problème de l'œil, c'est-à-dire du regard. L'humanité entière est enfermée dans le problème du « je ne veux pas que Dieu me voie ». L'humanité entière est enfermée dans le problème du « je ne sais même pas que Dieu me voie ». L'humanité entière est enfermée dans le problème du « je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas, je ne crois que ce que je vois ». Ils sont enfermés dans le problème de l'œil, du regard. Et cela explique le phénomène, écoutez-moi bien, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle a commencé tout de suite parce qu'elle permettait de mettre quelque chose entre Dieu et nous pour que surtout on ne voie pas Dieu et Dieu ne nous voit pas. Ensuite, les hommes ont voulu des rois qui les gouvernent, et ces fameux rois, eh bien, avaient des multitudes de personnages qui dirigeaient le royaume, et les gens du peuple, les petites gens du peuple, étaient soumis au roi, mais ne le voyaient pas, ils ne voulaient pas le voir. C'est ce que le peuple voulait, on ne veut pas voir l'autorité. L'humanité dit, l'autorité ne doit pas avoir un œil sur moi, je déteste me savoir vu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, même si on obéit à l'autorité, on peut passer notre vie sans jamais l'avoir, l'autorité. Vous obéissez aux règles, aux lois qui sont établies au gouvernement de votre pays, et vous pouvez vivre sous ces lois toute votre vie. C'est des gens qui, mais ces gens, vous ne les voyez jamais. Ils ont été élus pour, mais on ne veut pas les voir, on ne veut pas leur regard sur nous, on veut, voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie alors en vérité? Eh bien c'est, j'accepte ton autorité au-dessus de moi, mais surtout pas ton regard. Parce que, en fait, l'idolâtrie, c'est pas un refus de Dieu, mais c'est juste le fait de vouloir prendre une distance par rapport à lui. Vous savez comment ça se passe? On commence à s'éloigner une fois, puis on s'éloigne encore plus, et encore plus, et encore plus, jusqu'à ce que, finalement, on ait une véritable idolâtrie, où Dieu est remplacé par l'idole. Et on ne sait même plus qu'il y a un Dieu qui a existé, ou qui existe encore, on prie l'idole, on croit que c'est la statue qui répond. Mais au départ, ce n'était que le désir de mettre une distance entre Dieu et nous, hommes et femmes. De mettre un intermédiaire entre Dieu et nous. Alors voilà l'histoire des peuples. Oh Dieu, mets quelque chose ou quelqu'un entre toi et nous, afin que ce ne soit pas directement sous ton regard qu'on vive, parce que ton regard, on ne le supporte pas, il est trop saint. Et on trouve cette démarche, par exemple, au pied du mont Sinaï. En vérité, voilà comment ça s'est passé. Dieu dit que le peuple entendrait la voix du Seigneur pendant qu'il parlerait à Moïse. On trouve ça dans Exode 19, 9. Il dit ça parce que il savait que le peuple n'était pas capable de le voir. Alors, Dieu dit, ils ne verront qu'une épaisse nuée. Et puis alors là, Dieu est descendu au milieu du feu, et il y avait une fumée qui s'élevait, comme la fumée d'une fournaise, et la montagne tremblait. Vous trouvez ça au verset 18. Et là, le peuple dit à Moïse, écoute, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Il ne supportait pas ça. Exode 20, 19. Ni voir, ni entendre Dieu, ni se savoir vu et entendu. Cela, c'était que la répétition de ce qui s'était déjà passé avant la création du monde. Et dans ce monde créé, il fallait que les esprits incarnés qui avaient oublié leur passé éternel apprennent que Dieu inspire de la crainte. Et voilà pourquoi l'humanité entière a choisi l'idolâtrie, parce que profondément, l'idolâtrie n'est pas un culte de l'image en réalité. En réalité, l'adoration des images, c'est le déchet de l'idolâtrie. Je dirais même plus loin, je dirais que c'est l'excrément de l'idolâtrie. La véritable idolâtrie, c'est la soumission à Dieu qu'on ne veut pas voir. C'est la soumission à Dieu qui ne nous voit pas. On pense qu'il ne nous voit pas. Et à partir de là, l'humanité est tombée plus bas encore, dans l'idolâtrie, excrément, excusez-moi le mot, mais voilà quoi. C'est-à-dire le culte des images et tout ça, et le commerce des images. Alors dans tout cela, Dieu s'est choisi un peuple qui n'est pas différent des autres. Un peuple qui est un prélèvement d'un peuple parmi les peuples. Israël, c'est simplement la prémisse de la récolte de Dieu. Et pourquoi Dieu a prélevé ce peuple-là? Eh bien, pour commencer la réparation de ce qui s'était passé avant la création du monde. La fuite des esprits avant la création du monde, pour réparer ça, puis la fuite d'Adam et Ève au jardin, hein, et puis la fuite du peuple au mont Sinaï, et puis l'oubli de l'existence de Dieu qui est remplacé par l'idolâtrie excrément. Comme je vous ai toujours dit, hein, Israël, c'est l'atelier de Dieu. Un atelier de réparation. Et quand le salut, quand Jésus vient aux Juifs, c'est pour la réparation. Mais la réparation de quoi? Eh bien, des autres nations. Et puis ensuite, réparation du peuple d'Israël en fin de compte, à la fin des temps. Le salut vient des Juifs, ça signifie que Israël a été prélevé des nations en vue de la réparation de l'œil abîmé, du regard abîmé, du face-à-face abîmé. Le salut, la réparation de l'œil, c'est ce qui amène l'humanité au niveau du face-à-face avec Dieu, au niveau de ce qui était avant le commencement, lorsque nous nous trouvions esprit à esprit, face à face avec notre Dieu créateur. Mais cette fois, avec cette réparation en Jésus-Christ, c'est un face-à-face sans peur, sans crainte, en étant alors capable de supporter cette relation avec Dieu. Parce qu'on la sait amour, pas simplement dure, effrayante. Alors par Jésus, nous avons un regard illuminé sur la parole qui nous montre le chemin et l'esprit éclairé qui nous permet de vivre consciemment sous le regard de Dieu malgré nos imperfections, parce que on sait que faire avec nos imperfections puisque Jésus les a portées. On peut venir vers lui pour confesser nos fautes et il est fidèle et juste pour nous pardonner. On le sait. Alors évidemment, on a la crainte de Dieu, on sait bien qu'il est un Dieu terrible, un Dieu jaloux, on sait toutes ces choses, mais on n'en a plus peur parce qu'il nous a montré la dimension de son amour qui est infinie et on ose venir vers lui à cause de cette réparation accomplie à la croix et par la résurrection. Mais comme je vous l'ai toujours dit, il y a deux sortes d'esprits. Lors de la fuite des esprits, avant la création du monde, une partie a tout fait et continue encore aujourd'hui de tout faire pour ne pas être vue. Et puis vous avez ceux qui vont faire exactement le contraire. Ils vont se soumettre et s'écraser devant le regard. Pour vous aider, je vais juste vous donner une petite métaphore. C'est pas, comme toutes les métaphores, ça n'est qu'une métaphore, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est un peu comme un enfant qui ne supporte plus le regard de ses parents, qui ne supporte plus leur autorité, et puis qui s'enfuit. Ou, il y a une autre possibilité, il obéit, et alors à partir de là, il n'est plus en conflit avec le regard de ses parents. Et Jésus est venu pour que nous mourions à nous-mêmes, pour que nous nous écrasions, que nous mourions à nous-mêmes. Pas pour que notre moi, pas pour que notre personnalité s'épanouisse, mais au contraire, pour qu'elle diminue afin qu'il croisse en nous. Que cette lumière, cette énergie, cette beauté, cette perfection croisse en nous. Et que ce qui est chair, révolte, bêtise et compagnie s'écrase et meurt. Alors nous devons nous regarder comme morts quant à la chair et ses désirs et vivants quant à Dieu. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Vivant sous son regard, sans aucun conflit, sans aucune crainte, sinon celle de déplaire à notre Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui crée la difficulté dans la relation entre Dieu et nous? Eh bien, c'est nous, notre moi, notre personnalité, qui n'a pas été immergé en lui. Alors, il y a possibilité de réparation par Jésus-Christ et possibilité de nous rapprocher de Dieu et de découvrir ce face-à-face et d'être content de se savoir vu par Dieu, d'être content d'être vu par Dieu, mais aussi d'en arriver au point où on peut le voir. Et ça, je vous en parlerai dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de nous éclairer afin que, en cette fin des temps, nous puissions apprendre l'origine de toutes ces choses, de toute cette confusion, et que nous puissions comprendre comment il est simple, grâce à ton plan rédempteur, de s'approcher de toi et de retrouver ta face miséricordieuse. Merci Seigneur Jésus. Merci de bénir et de bénir encore tous les cœurs de bonne volonté. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. À bientôt.